Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Nous vous proposons un Univox en deux parties à partir d'un documentaire réalisé en 2021 par Mélissa Vicuiz de Radio Campus Tours pour le réseau Radio Campus France. Il y est question d'islamo-gauchisme, de liberté académique et en toile de fond de discrimination institutionnelle, consciente ou non, à l'université et plus largement dans la société française. Deuxième partie.
France, février 2021. D'un confinement à l'autre, la file des étudiants précaires s'allonge toujours lors des distributions alimentaires. Les équipes éducatives comme les étudiants sont épuisées par l'incertitude, les innovations technologiques accélérées par une pandémie mondiale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, émet alors le souhait de voir le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, institution de recherche parmi les plus importantes au monde, menait une enquête sur la présence de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mais le CNRS, tout organisme public de recherche placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qu'il est, se rebiffe. De quoi cette chasse à l'islamo-gauchisme est-elle le symptôme? Dans quel contexte s'inscrit cette demande de la ministre? Qu'apprend-on de la recherche et de l'enseignement supérieur en France et de la société française? Trois chercheurs de l'Université de Tours nous apportent leurs éclairages. Maboula Soumaoro, enregistrée en 2019, soit bien avant cet épisode, parle de son parcours universitaire et du fait d'être une chercheuse noire en France. Juliette Grange pointe les logiques de financement et les différentes lois qui influent sur la recherche et les contenus pédagogiques et mettrait à mal la liberté académique des enseignants-chercheurs. Julien Giry relève le parfum d'extrême droite qui s'échappe de la formule islamo-gauchiste et revient sur son ancrage historique. Trois chercheurs, trois points de vue pour élargir le nôtre. L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Ce terme, au contour mal défini, fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions souvent passionnées. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tente d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances ou à stigmatiser certaines communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en particulier, les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études post-coloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ de la connaissance. Concernant les questions sociales, le rôle du CNRS et plus généralement de la recherche publique est d'apporter un éclairage scientifique, une expertise collective, s'appuyant sur des résultats de recherche fondamentale pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion ou de prendre une décision. Cet éclairage doit faire état d'éventuelles controverses scientifiques, car elles sont utiles et permettent de progresser lorsqu'elles sont conduites dans un esprit ouvert et respectueux. La polémique actuelle autour de l'islamo-gauchisme et l'exploitation politique qui en est faite est emblématique d'une regrettable instrumentalisation de la science. Elle n'est ni la première ni la dernière, elle concerne bien des secteurs au-delà des sciences humaines et des sciences sociales. Or, il y a des voies pour avancer autrement au fil de l'approfondissement des recherches, de l'explicitation des méthodologies et de la mise à disposition des résultats de recherche. C'est là aussi la mission du CNRS. C'est dans cet esprit que le CNRS pourra participer à la production de l'étude souhaitée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, visant à apporter un éclairage scientifique sur les champs de recherche concernés. Ce travail s'inscrirait dans la continuité de travaux d'expertise déjà menés sur le modèle du rapport « Recherche sur les radicalisations, la forme de violence qui en résulte et la manière dont les sociétés les préviennent et s'en protègent », réalisé en 2016 par l'Alliance Athéna, qui regroupe l'ensemble des forces académiques en sciences humaines et sociales dans les universités, les écoles et les organismes de recherche ou du rapport, les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19, enjeux et formes de la recherche réalisée par le CNRS en 2020. Communiqué du CNRS du 17 février 2021.
J'ai plus souvent croisé à l'université française des gens qui pouvaient être d'origine africaine et qui étaient nés dans leur pays.
Mabula Soumaoro.
Enfin, en dehors de la France, ou même j'ai croisé plus de personnes issues des Outre-mer, mais qui venaient, de la Guadeloupe ou de la Guyane, que des gens d'origine africaine nés en France. Moi, je trouve que c'est nous qui sommes complètement invisibles. Comme si c'était plus facile pour la France, enfin, pour la République, pour les institutions, je ne sais pas, pour les personnes même, d'interagir avec quelqu'un qui venait carrément de l'extérieur. Nous, c'est comme si on représentait une sorte de, comment dire, ambiguïté. C'est-à-dire on veut que je sois de la Côte d'Ivoire. Je peux rencontrer des gens qui vont me dire, jusqu'à aujourd'hui, vous venez d'où? Alors quand j'ai pas envie de discuter, je vais dire, bon, je viens de la Côte d'Ivoire, comme ça c'est réglé, puisque c'est de ça dont vous voulez parler. Et ensuite, ils vont me dire, moi j'ai vécu 17 ans en Côte d'Ivoire, moi pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi c'est impossible de m'ancrer en France hexagonale? Et je me dis, pourquoi et à quoi ça sert? Donc, au niveau même des institutions, au niveau de l'université, moi, j'ai eu très peu de professeurs qui avaient mon profil. Est-ce que c'est chronologique? Est-ce que c'est historique? Est-ce que je fais partie de la première génération à, atteindre le niveau de diplôme qui fait qu'on peut avoir des postes à l'université? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens issus d'immigration qui sont bien plus âgés que moi et qui ont eu les mêmes diplômes que moi, et qui n'ont pas intégré... On dirait qu'il y a une impossibilité. Moi, on m'a déjà pris, même ici, à l'université, à un collègue avec qui je discutais dans mon bureau en français. Le collègue a préféré croire que j'étais américaine. « Ah, vous êtes française ?»« Oui, c'est pour ça qu'on parle en français depuis tout à l'heure. » Parce qu'il m'avait pris pour une lectrice. Vous connaissez les lecteurs qui vous donnent les cours de linguistique ou des choses comme ça. Et même moi, les meilleurs des lecteurs que j'ai pu croiser au fil des ans, même ceux qui parlaient un français impeccable, j'ai toujours entendu un petit accent, quelque chose. Donc je me suis dit, est-ce qu'au niveau de mon élocution, est-ce qu'au niveau de ma manière de parler, est-ce que je peux passer pour anglophone? Non, je pense pas. Donc je m'interroge encore sur la raison pour laquelle ce collègue a préféré m'imaginer anglophone. Et pour moi, m'imaginer anglophone, c'est ça à voir avec mon corps, avec la couleur de ma peau et à cette impossibilité à m'ancrer dans le territoire français, quel qu'il soit. Moi, c'est comme ça que je le vois après l'avoir vécu, après y avoir réfléchi, puis surtout après l'avoir beaucoup étudié, puisque tout à l'heure, je parlais de ma spécialité. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et on a l'impression, en plus, que dès qu'on en parle, non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Oh, mais non, pas du tout. Si. Pourquoi je serais américaine? Quand je suis partie aux États-Unis, c'était aussi pour étudier. Donc, j'ai vraiment découvert un champ d'études qui vraiment peinent à s'installer en France, mais il y a des choses qui se font. Et ce sont les études. Donc moi, j'ai fait des études d'anglais à l'origine, et ensuite je me suis spécialisée en études afro-américaines. Et quand je suis partie aux États-Unis, je me suis spécialisée en ce qu'on appelle les études de la diaspora noire africaine. Donc en gros, c'est de la civilisation. Et qui s'intéresse aux populations donc d'ascendance africaine proche ou lointaine dans les territoires anglophones des Amériques, puisque j'avais cette formation d'angliciste. Et après, avec au fil des années, je me suis aussi intéressée aux populations afrodescendantes qui ne sont pas anglophones. En fait, je me suis retournée vers moi-même, essayer de réfléchir au fait d'être noire et d'origine africaine en France hexagonale. Et j'insiste toujours sur cette notion de France hexagonale, parce que en France, on oublie que la France n'est pas constituée que de sa partie européenne ou continentale. On a ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Donc là, je sais pas, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, on peut penser à la Réunion. On pourrait aller même jusqu'à, je sais pas moi, Tahiti, enfin toute la Polynésie française. Enfin, il y a tous ces territoires auxquels on ne pense jamais depuis la France hexagonale. Et pire, moi, je suis parisienne. Donc, si je ne travaillais pas à Tours, je ne penserais même pas à Tours. Donc, il y a comme ça des tendances à centraliser qui font qu'on rend invisibles d'autres territoires.
Alors, comment ce terme s'est retrouvé aussi lié à l'université française ?
Alors là, c'est ça qui est assez intéressant. Je crois qu'il faut prendre ça un peu plus globalement.
Julien Giry.
On voit que de toute façon, ce type de thématiques se sont imposées plus largement dans l'opinion publique en général. Ça serait peut-être un peu long d'expliquer comment finalement une partie de la droite, de l'extrême droite, on comprend pourquoi par haine de la gauche et des musulmans, par crainte ou rejet de l'islam, c'est tout à fait naturel. Et on voit comme depuis plusieurs années qu'une partie de la gauche aussi a récupérer ces termes à gauche, le printemps républicain par exemple, ou même des gens qui sont à riposte laïque, qui viennent de la gauche, etc. Il y a une crispation identitaire qui se fait sur l'islam. Et là, Macron et son gouvernement, via les ministres, d'ailleurs peut-être pas Macron lui-même, c'est un peu plus nuancé que ça, puisque lorsque la ministre Vidal avait utilisé l'expression islamo-gauchiste, on avait vu qu'en Conseil des ministres, Attal notamment n'était pas tout à fait partisan de cette formule, trouvait que c'était un peu réducteur, bon bref. Donc cette formule, elle arrive par un calcul politique, je crois, assez intéressant du ministre et de la ministre, qui comprend qu'il faut flatter une partie de cet électorat plutôt droitier s'il veut être élu en 2022. Parce que l'alliance macroniste 2017, avec une partie de la gauche qui avait quand même voté pour lui contre Marine Le Pen, elle se fissure largement au regard des politiques mises en place par le même ministre. La gauche académique, elle est largement aussi opposée aux réformes mises en place par la ministre Vidal depuis son arrivée au pouvoir. Donc il y a aussi des lignes de fracture qui se jouent. Et c'est comme ça, dans ce contexte-là, d'opposition déjà à cette ministre, que le terme arrive. Elle arrive pourquoi ? Parce qu'une poignée finalement d'universitaires, alors minoritaires quantitativement dans l'université et parfois aussi très marginaux dans leur discipline, ont demandé quelque part à la ministre de lutter contre ce qu'ils estiment être une idéologie dévoyée, l'islamo-gauchisme, les études décoloniales, postcoloniales, les théories intersectionnelles, etc., etc. Donc il y a tout un contexte de gens qui se voient et qui sont minoritaires, qui ont une vision plutôt, disons, droitière des sciences sociales et qui se pensent complètement assiégés, en lutte par rapport à ce qu'ils considèrent non plus comme de la science, mais de l'idéologie pure. Donc, dans ce contexte-là, le terme est arrivé comme une espèce de label de disqualification pour jeter l'opprobre sur toute une frange et tout un pan des sciences sociales francophones et anglo-saxonnes également, surtout même. D'une manière générale, à part, je pense, dans des stratégies un peu de renversement du stigmate, personne ne se reconnaît islamo-gauchiste, parce que c'est un concept relativement creux et vide de sens. Je crois que le CNRS en a fait état, la conférence des présidents d'université en a fait état. On est face vraiment à ce terme valise dont on parlait tout à l'heure, dont on a peine à saisir la substance, si ce n'est comme un usage de disqualification. Et on le voit bien, la manière dont ça a été utilisé. Cette minorité d'universitaires qui a fait cette tribune, notamment, qui a fondé l'Observatoire du décolonialisme ou l'Observatoire des fondamentalismes en Belgique, a été largement suivie par une presse disons, plutôt droitière, hein, par des éditorialistes plutôt de droite, Valeurs Actuelles, CNews, etc., pour justement à foncer le clou face à des gens qu'ils considèrent comme des adversaires politiques. Et c'est là où c'est tout à fait inquiétant, parce que d'une très manière générale, l'université était un lieu de controverse, de débats extrêmement forts. Dans les années 70, vous aviez des marxistes à l'université qui s'en prenaient violemment avec leurs collègues, disons, plutôt libéraux-conservateurs. Mais jamais on a demandé l'intervention du pouvoir politique. C'est là où on franchit un cap qui, moi, me paraît assez douteux. Les controverses académiques, elles existent, c'est normal. Il y a des débats idéologiques, des débats d'idées, des débats de vision, de perception, des conflits de méthodes, c'est tout à fait normal. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'on demande, une minorité d'universitaires demande via des tribunes au pouvoir politique d'intervenir et le pouvoir politique accepte. C'est là où est le problème.
Islamo-gauchisme. Frédéric Vidal suscite un tollé dans le monde universitaire et un malaise au sein de la majorité. Mandaté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour mener une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités, le CNRS a condamné les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. L'Élysée a tenté de couper court mercredi 17 février à la polémique ouverte par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, qui a mandaté le CNRS pour mener une étude scientifique sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Cette sortie avait d'abord suscité la stupeur de la conférence des présidents d'université. Mardi, ces derniers avaient dénoncé dans un communiqué les représentations caricaturales et argusies de café du commerce de Madame Vidal. Mercredi, le CNRS lui-même a adopté un ton critique en condamnant les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donc rappelé l'attachement absolu à l'indépendance des enseignants-chercheurs porté par Emmanuel Macron. Cette conception est partagée par l'ensemble des membres du gouvernement et continuera à être défendue, a-t-il insisté. L'heure est au recadrage, alors que la priorité pour le gouvernement est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire, selon M. Attal. Pas question d'ouvrir un front avec le monde universitaire en pleine pandémie de Covid-19 et encore moins avec la jeunesse à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2022. Au sommet de l'État, on l'assure, ni le président de la République ni le premier ministre n'étaient informés de l'initiative de la ministre. Invité de CNews, dimanche 14 février, Frédéric Vidal avait annoncé son intention de confier au CNRS une enquête visant à distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Sa sortie était inopportune, tranche un conseiller de l'exécutif. Elle a eu envie de faire un coup qui s'avère mal calibré et de sortir du malaise étudiant dans lequel elle est empêtrée, analyse un macroniste, selon qui l'ancienne présidente de l'université Nice, Sophia Antipolis, novice sur la scène politique, a voulu montrer qu'elle sait faire de la poloche de la politique politicienne. Exaspération à son comble. Si Emmanuel Macron prend ses distances, la ministre a pourtant trouvé du soutien du côté de l'aile droite du gouvernement. Madame Vidal est courageuse et elle a raison, a ainsi salué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mercredi 17 février sur France 5. Je connais des chercheurs avec lesquels on a travaillé sur le projet de loi confortant les principes de la République, dite loi séparatisme, Bernard Rougier ou Gilles Kepel, par exemple, qui expliquent très bien comme l'université française, parfois, les considère comme pas bienvenus et sont parfois obligés de s'expatrier, de trouver des financements publics ou privés pour faire leurs études. Dans certains endroits, dans certaines faculté, il existe cette incursion de l'islamo-gauchisme. Article de Le Monde par Sylvia Zappi, Mariama Daram, Olivier Fay et Soazic Lenevé, publié le 18 février 2021.
Et donc moi, avec le corps que j'ai, la couleur de peau que j'ai, on ne m'a jamais soupçonné d'être musulmane. Ça n'a pas été mon problème.
Maboula Soumaoro.
Pour moi, je suis déjà, enfin, quand les gens me perçoivent, je suis une femme noire. Et ils vont se dire, c'est une femme noire ou c'est une femme africaine, pas antillaise, non, vraiment africaine. J'ai une tête d'africaine apparemment et des traits d'africaine. Et donc la question de l'islam, les gens qui s'y connaissent, en culture, je sais pas, d'Afrique de l'Ouest, pourraient savoir par mon nom de famille, mais ça il faut connaître, que de toute façon, je sais pas, les Djoulas sont musulmans. Enfin, si vous rencontrez quelqu'un qui est Djoula, il a de grandes chances d'être musulman. Si vous croisez un Soumaoro, il y a de grandes chances que la personne soit musulmane. Si je m'appelais par exemple Mariam, les gens devraient savoir, comprendre que Mariam c'est Marie. Et que Mariam, c'est la version africaine de l'Ouest et musulmane de Marie. Voilà. Mais ça, c'est un savoir qui n'est pas connu. Donc, quand je dis aux gens que je suis musulmane, quand je dis que je fais... En plus, je suis une très mauvaise musulmane, mais je suis musulmane quand même. Mais quand je dis que je fais le ramadan, ou quand... voilà, parce que je fais le ramadan quand même. Les gens ont du mal à le croire. Et donc, c'est comme si ces strates de mon identité, elles étaient... elle ne pouvait être que binaire ou très très simple, c'est-à-dire noir c'est noir, africain c'est africain, musulman c'est autre chose, enfin voilà, alors qu'on peut être noir et musulman et noir et plein d'autres choses. Mais quand on me voit, vu que je ne suis pas voilée par exemple, ben on va jamais jamais m'associer à l'islam.
Non pas que certaines doctrines ne méritent pas d'être discutées ou remises en cause, moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout dans je suis favorable à tout ce que les études postcoloniales, aussi bien philosophiques qu'en sociologie, proposent.
Juliette Grange.
Mais je pense que ça doit être discuté dans le champ universitaire, par les universitaires, et que les politiques n'ont pas à guider à partir de quoi d'ailleurs les doctrines qui sont élaborées dans les groupes de recherche, dans les équipes de recherche, qui doivent rester libres de leurs conclusions ou de leurs travaux ou de leurs choix. Mais donc il y a dans l'ensemble une mise en cause de ce qu'on appelle la liberté académique, qui est d'ailleurs un droit constitutionnel des professeurs, ceux qui en rendent professeurs des universités, c'est-à-dire ils sont complètement libres de définir leurs objectifs de recherche, leurs objets de recherche, et aussi leurs thèmes d'enseignement, la manière dont évidemment on respecte des maquettes, on respecte des règlements administratifs, cela va de soi, mais si j'ai par exemple un cours à et politique, eh bien, je suis libre d'élaborer complètement mon séminaire ou mon cours comme je l'entends, évidemment en respectant un certain nombre de règles, mais absolument comme je l'entends. Et c'est peut-être cela qui a été mis en cause.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien.
La question de ce qui est enseigné, ce qui n'est pas enseigné, et ce qui est enseigné, c'est ce qui est valorisé, ce qui est digne d'être connu. Et donc, on s'aperçoit, enfin, moi, je me suis aperçue qu'à un moment, pas mal d'aspects de ma vie ne sont pas dignes d'intérêt puisqu'ils ne sont pas enseignés. Enseigner quelque chose, c'est valoriser quelque chose. Et moi, je n'apparaissais jamais nulle part. Donc, est-ce que ça voudrait dire que je n'ai pas de valeur ?
Beaucoup de choix fondamentaux sont guidés par des choix de financement des équipes de recherche qui vont travailler plutôt dans telle ou telle dimension, qui sont des demandes directes ou indirectes des institutions ou de la réponse à des appels d'offres, ce qui va certainement peut-être limiter la liberté académique et qui, si j'en crois les nouvelles lois régissant l'université, risque de limiter de plus en plus la liberté académique dans le futur.
Pourtant il faut que l'on vous dise qu'on déplore un tout petit rien.
Moi, je pense avoir connu pas mal de liberté dans ma carrière, ce qui m'a d'ailleurs maintenu dans ce métier, où on a très grande liberté personnelle, et je crains que dans l'avenir, mes jeunes collègues soient moins libres que je ne l'ai été, dans la mesure où il faut intégrer des processus collectifs avec directement ou indirectement des régulations dans le choix, en fait, des écoles de pensée, des objets d'études et peut-être des objets d'enseignement dans l'avenir.
Allô, ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Et alors, qu'est-ce qui va se passer, admettons, à l'université, à la rentrée? Parce que là, bon, on entend moins parler dans les médias de l'islamo-gauchisme à l'université, mais ça ne veut pas dire que le feu est éteint. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
On verra, j'espère en tout cas, que notre ministre aura des choses beaucoup plus importantes à faire, comme par exemple, je ne sais pas moi, ouvrir des postes, trouver, prendre en charge le bien-être des étudiants qui auront beaucoup souffert, trouver des places en CTU, des choses comme ça. J'espère vraiment qu'il y aura quand même des choses beaucoup plus importantes que ces espèces de gesticulations à visée électorale ou ces espèces de faux débats qui font diversion en fait sur les vrais problèmes qui touchent l'université française, qui sont extrêmement, extrêmement nombreux. Je pense que la rentrée, ça sera comme tous les ans, on verra des étudiants qui n'auront pas de place pour s'inscrire, qui n'auront pas de place pour s'asseoir dans les amphis. Et ça, c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'on attend davantage un ministre que sur une espèce de chasse aux sorcières d'une cinquième colonne supposément infiltrée dans l'université, parce que là, on nage quand même en pleine théorie conspirationniste. Alors, on s'étonnera surtout que les militants anticomplotistes qui sont toujours hyper vigilant ou très très proactif pour dénoncer toutes les théories du complot supposées crues par nos concitoyens. On s'étonne de leur silence lorsque une ministre au gouvernement décide d'enquêter sur une supposée cinquième colonne infiltrée secrètement au sein de l'université. Donc j'espère que la ministre retrouvera un peu la raison, laissera de côté ses vieilles lunes et se concentrera sur ce qui fait vraiment problème à l'université. Je crois le manque structurel de postes d'enseignants-chercheurs, la condition des étudiants qui est absolument voilà, précaire pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà, je crois qu'il y a suffisamment de vrais problèmes pour ne pas se lancer dans des combats un peu chimériques.
Donc on n'a qu'à mettre les pieds dans le plat, et puis comme ça, tout le monde sera libéré, tout le monde sera content, et on passera à autre chose. Parce que c'est aussi pesant de devoir faire silence sur des choses qui se passent au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est-à-dire qu'arriver en tant que maîtresse de conférence à l'université peut m'amener à devoir gérer des personnes, que ce soit des collègues, des étudiants, du personnel administratif ou même les personnes qui s'occupent du ménage, à ne pas croire que je suis prof. Je ne suis pas la prof à laquelle on s'attend. Parce que généralement, les gens qui me ressemblent ne sont pas profs à l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on le sait, on le constate. Donc pourquoi, à partir du moment où j'en parle, et je ne suis pas la seule, non, faut pas faire la distinction. Non, la distinction, elle existe déjà. Et s'il n'y avait pas de distinction, on ne serait pas en train de parler de ça. Je pourrais me définir autrement. Je ne suis pas que noire. Je ne suis pas que ivoirienne. Je ne suis pas que djoula ou musulmane. Je suis plein d'autres choses. Mais toutes ces autres choses, elles ne me pèsent pas ou elles ont une incidence moindre dans mes interactions avec les gens. Si j'arrivais à Tours en tant que femme de ménage, je ne pense pas qu'on me dirait « Vous êtes sûre que vous êtes la femme de ménage? C'est bien vous ?» C'est bien vous la femme de ménage? Non, je pense plutôt que vous êtes prof. Ça m'est jamais arrivé.
Merci à Maboula Soumaoro, Juliette Grange et Julien Giry. Merci également à Nadia Bellarbi et Nicolas Orbert. Ce documentaire est à retrouver en intégralité sur le SoundCloud de Radio Campus France. Il a été réalisé en 2021 par Mélissa Vicuise pour le projet GTTO Get These Trolls Out, projet européen luttant contre les discours haineux diffusés dans les médias.